Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 16 janvier 2009. Nous en profitons pour vous présenter le vœu le meilleur pour cette nouvelle année. Comme vous le savez, dans cette émission, nous analysons avec des confrères quelques grands faits qui ont dominé l'actualité de la semaine. Et nous avons retenu trois thèmes au menu de l'émission de ce soir, à savoir troisième round des discussions entre le gouvernement et le CNDP à Nairobi. Les deux parties se sont séparées sans avoir signé l'accord de cesser le feu. Et la reprise des discussions est fixée au 25 janvier prochain. Le deuxième thème de cette émission est consacré à la clôture hier jeudi à la CPI des audiences de confirmation des charges dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Après ces audiences qui ont duré 4 jours, les juges ont 60 jours pour rendre leur décision sur le sort réservé aux leaders du MLC. Et enfin, nous parlerons du gouvernement congolais qui a annoncé le lundi dernier le désarmement forcé de FDLR et autres groupes armés qui sévissent dans les provinces du Kivu. Et nous recevons dans cette émission des confrères et une consoeur pour analyser ces différents sujets. Ici au studio, nous avons Benoît Cambéré, rédacteur en chef du magazine Écho du Grand Lac, journal paraissant à Kinshasa et distribué aussi à l'est du pays. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Mike Mukebayi est au téléphone. Lui, il est directeur du journal Congo News paraissant ici à Kinshasa. Mike, bonsoir.
Bonsoir Pierrot.
Et également au téléphone, nous recevons Linda Lukalu, journaliste à la chaîne de radio et télévision Nyota et mettant à Lubumbashi dans le Katanga. Bonsoir Linda.
Bonsoir Pierrot, et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bonsoir encore une fois de plus, et bien avant d'entrer dans le vif de notre émission, jetons un coup d'œil aux différents journaux parus à Kinshasa cette semaine et qui ont été lus pour nous par notre confrère Willy Akonda qui nous en fait un condensé dans cette revue de presse.
La semaine a été marquée entre autres par l'affaire Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. La tempête des tropiques dans son édition de mercredi estimait que la politisation de l'affaire Bemba ne cessait de monter. Le journal explique cette position par l'acharnement de la Cour pénale internationale sur Jean-Pierre Bemba qui comparait seul alors que de nombreuses personnalités politiques centrafricaines et congolaises devaient être à ses côtés. C'est pourquoi le Phare a évoqué mercredi dernier un huis clos partiel que comptait solliciter la défense le jeudi dans l'objectif de citer des témoins à charge. Le journal parle de certains anciens du MLC aujourd'hui proches du pouvoir de Kinshasa. Le même confrère a cité le cas d'un témoin référencé 31 pour qui les troupes du MLC étaient placées sous la responsabilité du ministre centrafricain de la Défense qui lui-même recevait ses instructions du président Patassé. Et au quotidien, le journal de conclure dans sa parution du jeudi 15 janvier que seul Ange Félix Patassé pourrait laver Bemba en arguant que celui-ci n'était pas au courant du plan macabre dénoncé par la CPI. Autre sujet de la semaine, c'est la décision lundi dernier du gouvernement congolais de procéder au désarmement forcé des FDLR avec la présence des officiers du renseignement rwandais comme observateurs. Le journal L'Avenir explique les motivations de cette décision qui, selon le gouvernement, tous les appels au rapatriement volontaire ont échoué. C'est une façon de mettre fin à ce problème qui est à la base de la suspicion entre le Rwanda et la RDC. Les rebelles hutu-rwandais n'approuvent pas cette opinion. Selon la référence plus, les FDLR fustigent le recours à la force et appellent au dialogue. Les journaux paraissant à Kinshasa sont également revenus sur le troisième round des négociations de Nairobi entre Kinshasa et le CNDP. Le potentiel s'est penché sur la scission au sein du CNDP. Le bras de fer, selon les confrères, si bras de fer il y a, entre Lourenkunda et Bosco Ntaganda, suscite plusieurs interrogations. D'après le journal, Kinshasa risque de se retrouver en face de deux CNDP et ne savoir avec qui négocier une situation inconfortable qui met en péril le processus de pacification au Kivu.
Mike Mukebayi, vous êtes le directeur du journal Congo News paraissant ici à Kinshasa. Dans une minute, pensez-vous qu'il y a des choses qui pouvaient être dites mais que la presse kinoise a oublié par rapport aux faits d'actualité que nous analysons ce soir?
Notre confrère a fait tout à l'heure est un condensé. La presse dans son ensemble a couvert bien d'autres sujets. Il y a eu le débat à l'Assemblée nationale sur l'affaire du ministre Boutouali. J'ai lu ça dans la majeure partie de la presse. Donc je crois que dans l'ensemble, l'actualité a été énormément couverte par la presse. Ce que notre confrère nous présente n'est qu'un condensé, quoi.
Benoît Cambéret, vous êtes le rédacteur en chef du journal Écho des Grands Lacs Paris Saint-Cyr-Kinshasa, distribué aussi à l'est de la RTC. Au niveau de votre rédaction, quel pouvait être un autre regard par rapport au traitement de ces faits, compte tenu du traitement de ces principaux journaux de Kinshasa?
Ben, en dehors de ça, et compte tenu de l'actualité, on aurait dit, et de la périodicité du journal, on aurait parlé du 16, 17 et 18 janvier, qui sont les dates qui marquent la commémoration des décès de Laurent Désiré Kabila et de Patrice Emery Lumumba.
Linda Lukalo, vous qui êtes sur place à Lubumbashi, et bien sûr en partant de votre rédaction, comment est-ce que les médias de Lubumbashi ont-ils commenté ces différents événements cette semaine?
Bonjour, au fait, merci pour la question. Concernant d'abord la revue de presse, c'est un condensé. Et il faut d'abord savoir que ici au Katanga, les journaux ne paraissent pas aussi régulièrement que ça. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'envie par rapport à Kinshasa où il y a des quotidiens et pour moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de journaux et j'en déduis que c'est diverses opinions. Contrairement au Katanga, nous n'avons que des mensuels, à la limite des hebdos qui sont même pas aussi réguliers que ça, ce qui donne cette impression du Katanga fermé. Il faut dire que les journaux ne paraissent pas aussi régulièrement au Katanga qu'à Kinshasa.
Ok, comme je le disais dans le sommaire de cette émission, le gouvernement et le CNDP se sont séparés ce jeudi à Nairobi sans l'accord des cessez-le-feu. Selon un communiqué de la facilitation africaine et onusienne menée par les anciens présidents Benjamin Kapa de Tanzanie et où le Ségur Obasanjo du Nigeria, ces discussions ont réalisé des progrès, notamment la signature des termes de référence sur base desquels vont se poursuivre le dialogue entre les deux parties. La médiation a demandé aux représentants de ces deux délégations de faire part à leur base de ces points convenus avant la prochaine étape des discussions prévue au 25 janvier prochain. Étape censée, bien sûr, aborder les questions de fond. Ce matin, sur la radio du BBC, Olusegun Obasanjo, qui a fait son rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies, a évoqué les intransigeances de la partie gouvernementale lors de ce troisième round des discussions, mais sans aller loin. Mais pourquoi le cessez-le-feu n'a pas été signé? Pour le porte-parole de la délégation gouvernementale, l'abbé Apollinaire Malumalu, lui ne parle pas du blocage, mais pour lui, la signature de l'accord de cessez-le-feu n'est pas intervenue parce que les discussions sont en cours. Je ne sais pas dire quand interviendra cette signature, a encore dit le prélat catholique. Même son décloche du côté de CNDP, Bertrand Bessimo, porte-parole du CNDP, le confirme au téléphone de Kéline Kouté.
Il faut dire que jusqu'au stade actuel, ne sont pas autorisés d'en parler, étant donné que ce document est encore en chantier. À sa signature, nous pourrions vous en relever le contenu.
Bertrand Bessimo, vous dites que la médiation vous a demandé de consulter vos bases sur les questions qui restent à traiter avant la signature de l'accord de cessez-le-feu. Mais est-ce que cette suspension n'est pas aussi due à la crise au sein du CNDP?
Malheureusement, je dois vous décevoir en vous disant que ce n'est pas du côté du CNDP qu'il faut trouver la cause qui a fait que ce document ne soit pas fini. Et cette question-là à laquelle vous faites allusion, elle n'a jamais été soulevée par qui que ce soit dans les négociations. Donc au stade actuel, le blocage ne vient pas du CNDP.
Alors, Mike Moukebaï, je rappelle que vous êtes le directeur du journal Congo News Paris Saint-Kinshasa. Peut-on dire que c'est une surprise le fait qu'au troisième round des discussions, on se retrouve sans accord sur un cessez le feu possible?
Non, ce n'est pas une surprise. D'abord, sur le plan de principe, il s'agit de négociations. Donc, quand on parle de négociations, ça signifie que c'est un processus. Donc, on va multiplier des contacts, des discussions. On a commencé avec le premier round. Chaque partie s'écabre sur ses positions. Et progressivement, peut-être les gens vont finir par se comprendre et avancer. Mais sur le plan pratique, il faut reconnaître qu'il s'agit là d'une crise très, très complexe. Il y a au centre de cette crise l'affaire d'FDLR. D'un côté, le Rwanda, de l'autre, les CNDP. Comment résoudre cette question, sans compter les questions d'ordre politique que le CNDP évoque en rapport avec la gestion du pays. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas encore une volonté nette peut-être de part et d'autre, peut-être surtout du côté du CNDP, d'aller effectivement vers une situation de paix. J'ai craint fort qu'il y ait des gens qui pensent qu'en situation de paix, ils se retrouveront en plus en insécurité. J'ai évoqué lors de la dernière émission la question des garanties de sécurité personnel, qu'est-ce qu'on peut penser qu'un Kunda se sentira plus en sécurité si demain nous signons la paix? Est-ce que Bosco Tangada lui-même, qui aujourd'hui est en train de créer une aile, une autre aile du CNDP, est-ce que Bosco se sentira en sécurité en situation de paix? Il pèse déjà sur lui, qu'on lui un mandat d'arrêt de la CPI. Ça signifie que le jour où nous signons la paix, on peut le prendre à n'importe quel moment pour le déférer devant la CPI. C'est alors que la fois passée, je me disais, moi, qu'avant toute chose, il nous faut négocier des conditions, des garanties personnelles pour certains acteurs. C'est pourquoi je disais l'autre fois qu'il nous fallait privilégier la voie de la paix et arrêter de penser que c'est par la justice internationale que nous allons régler certains problèmes dans notre pays. Je ne dis pas que je suis pour l'impunité, que j'encourage les gens à commettre des crimes, mais j'ai dit faisons ce que les Centrafricains ont fait, ils l'ont compris. Eux qui ont travaillé à l'Ivo Jean-Pierre Bemba à la CPI ont compris que pour la paix chez eux, il fallait passer par une réconciliation nationale. Prenons ce courage, c'est un moment important de l'histoire de notre pays. On s'est dit, on lève l'option, on fait la paix, mais ce n'est pas à dire qu'on encourage l'impunité. On pourra toujours trouver une solution parce que les victimes réclameront toujours justice. Les Sud-Africains avaient trouvé une solution dans ce sens-là, ils avaient créé la commission vérité-paix. Ça voudrait dire sans aller à la sanction, mais on est passé à une sorte d'exorcisation. Hein. Donc on a exorcisé le mal sur la place publique. Ceux qui avaient commis des crimes l'ont avoué, ça a apaisé un peu les victimes. Trouvons une solution dans ce sens-là, et quand les uns et les autres sentiront qu'ils peuvent être en sécurité si la paix est signée, je crois que les gens vont s'engager. Moi, d'accord, j'ai toujours pensé que c'est un préalable fondamental.
Benoît Cambéré, vous êtes rédacteur en chef du journal Écho des Grands Lacs. Il y a plusieurs inquiétudes autour du climat qui prévaut au sein du CNDP. Les médiateurs, l'ancien président nigérien, parlait des intransigences de la partie gouvernementale. Peut-on aujourd'hui dire qu'il y a inflation compte tenu de la situation qui prévaut au sein du CNDP? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu quand même cet accord de cessez-le-feu qui est si important pour quand même régler la situation humanitaire au Nord Kivu.
Bon, d'abord, je voudrais dire que à entendre les uns et les autres, surtout à entendre le médiateur, le président Obasanjo, c'est d'abord des négociations préliminaires, des préliminaires aux négociations. On est encore en train de discuter des termes de référence. Deux, la situation qui prévaut au sein du CNDP ne semble pas être un grand obstacle, parce qu'on a vu, et on l'a dit la semaine dernière, dès que le président Obasanjo est arrivé, la première des choses à faire, il est allé à Jomba rencontrer Laurent Kunda. Et la délégation qui est allée à Nairobi n'a pas été contestée ni par la partie gouvernementale, ni par la médiation. Ça, c'est de un. De deux, à entendre, ce n'est pas cette question-là qui pose problème pour l'instant. Mais tout simplement, je voudrais revenir à ce que j'ai toujours dit, c'est connaissant les politiques congolais, connaissant leur fourberie. Les politiques congolais montent les enchères, et on l'a vu au courant de l'histoire politique de notre pays, à l'accord de Lusaka, on devait prendre autant de temps, on en a pris davantage, au dialogue intercongolais, on devait prendre autant de temps, on a pris toute une éternité, même à la conférence nationale souveraine, les politiques congolais ont l'art de faire traîner les choses pour leurs intérêts égoïstes, malheureusement, de faire monter les enchères, alors qu'on peut arriver à des solutions sans beaucoup de problèmes, parce qu'il faut tout simplement une volonté politique. Les problèmes des uns et des autres, maintenant que la médiation a demandé que chaque parti aille consulter sa base, c'est vrai, la délégation gouvernementale devra venir rendre compte au mandant ici à Kinshasa et les autres rentrer à leur base malgré leurs divergences et de trouver un modus vivendi pour rentrer parce que de termes de référence va dépendre la suite des négociations. Parce que si on se met d'accord sur les termes de référence, je crois que ce sera difficile dans l'avenir de contester tout ce qui peut venir de ces négociations.
Mais quelle explication vous donnez par rapport à cette issue au sein du CNDP-C? Disons que c'est à la veille même de la reprise de ces troisième round de négociations. Est-ce qu'on peut dire que c'est un fait du hasard?
Ben écoutez, fait du hasard ou pas, moi j'estime que c'est une distraction. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête trop sur ça parce qu'on risque de ne pas arriver à l'objectif qui est de trouver un accord. C'est vrai, il faudrait peut-être tenir compte de ça parce que jusque-là, on ne voit pas très bien qui dit quoi et qui est à la base de qui draine qui dans cette affaire. C'est encore flou. J'ai constaté que la partie Kunda n'a pas encore sanctionné Bosco, comme on l'appelle là-bas, le commandant Bosco, on l'a pas encore sanctionné. Et puis Bosco, il ne parle que de la partie Bosco, ne parle que de limogeage sur papier de Kunda. Sur les faits, on n'a pas encore vu ce que c'est. Mais il ne faudrait pas que la partie gouvernementale et surtout l'opinion congolaise se gourre en allant dans ce jeu de distraction qui peut faire en sorte qu'on n'arrive pas à l'objectif qui est la paix dans les deux provinces du Kivu, particulièrement au nord Kivu.
Merci bien, Benoît. Linda Lukalou, vous êtes à Lubumbashi, journaliste à la chaîne des radios télévisions Nyota. Le médiateur lui-même, Olusegun Obasanjo, a dit que la session au sein du CNDP ne va pas peser sur la suite des négociations. Mais nous savons au moins que Bosco Ntaganda, il est le chef d'état-major du CNDP et il a des troupes derrière lui. Est-ce que même si jamais on parvenait à signer un cessez-le-feu, Linda, est-ce que vous pensez vraiment que si Bosco Ntaganda ne se reconnaît pas dans un cessez-le-feu, la situation peut s'améliorer sur terrain au nord Kivu?
Je pense que même si les négociations reprenaient et que le CNDP regorgerait toujours en son sein des malentendus, rien de durable, alors rien ne sera établi, parce que je me demande si avec qui que le gouvernement signera finalement un quelconque accord, Kunda ou Ntaganda, et qu'en sera-t-il de la partie qui se sentira lésée? Il y a deux hommes qui se disputent la tête d'un mouvement, lequel de deux signera un accord avec le gouvernement congolais qui jusque-là est uni, et ça sera un rebondissement, et le Congo vivra encore ses rébellions indéterminées, parce qu'il y aura toujours une partie qui sera lésée, et même que Ntaganda et Kunda ont des troupes derrière elles, ça veut dire qu'un jour, si dans ces accords ils ne se retrouvent pas, un jour ils prendront encore les armes parce qu'ils l'ont déjà fait une fois et rien ne va les arrêter pour reprendre les armes.
Ok, Mike Mukebayi, je reviens à vous, bien sûr, je voudrais rectifier pour dire que l'ancien président nigérian a dit espère que la scission au sein du CNDP, je précise un peu, il dit qu'il espère que cette scission ne pourra pas peser sur la suite des négociations. Mais alors là, vous avez parlé tout de suite là de la réconciliation. Vous pensez aujourd'hui que, en parlant de Bosco Ntaganda, il devient là un interlocuteur valable même pour le gouvernement dans ces conditions, alors qu'il y a ce mandat d'arrêt de la CPI qui pèse sur lui?
Ben, je pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, sur le plan de rapport de force, Kunda contrôle encore les mouvements. Diplomatiquement, c'est lui le patron, parce que là, tout à l'heure, tu l'as même évoqué, Olusegun Obasanjo est allé à Jomba, une façon de reconnaître Kunda, de le conforter dans sa position. Mais si on doit essayer de voir, se demander si Bosco Ntaganda peut représenter un interlocuteur pour le gouvernement, moi je crois que c'est le plus mauvais des interlocuteurs. Je ne pense pas qu'un homme qui a contre lui un mandat d'arrêt de la CPI puisse négocier sérieusement pour aller vers la paix. Je crois que le gouvernement ferait fausse route en pensant fragiliser Kunda pour faire monter Bosco et négocier avec Bosco. De toutes les façons, si nous nous retrouvons avec cette ambiguïté, si demain il se fait qu'on se retrouve en face de deux mouvements CNDP, cela n'avance pas la paix. parce que nous nous retrouvons finalement en fait des deux interlocuteurs, ça sera plus compliqué à négocier plutôt que d'en avoir un seul et avec qui déjà le gouvernement parle, c'est beaucoup plus pratique. Regardez un peu les difficultés que nous avons connues pour arriver à un accord après les différentes rébellions. C'était très difficile, il y avait les Maïmaï, il y avait les MLC, il y avait les RCD, et quand on disait ici, ceci ici, là-bas les autres pensaient cela, c'était très compliqué. Mais je crois plutôt que la position du gouvernement doit être très claire et aller dans le sens de discuter avec l'interlocuteur qui a le contrôle de la situation à main, aller dans le sens de discuter avec l'interlocuteur qui est reconnu diplomatiquement, parce que je reste convaincu que Taganda, dans la situation d'aujourd'hui, avec un mandat de la CPI sous le dos, il ne peut pas accepter la paix.
En tout cas,
à moins que le gouvernement lui donne des garanties que M. Taganda, si jamais nous signons la paix avec toi, nous ne te livrerons pas à la CPI. Or, la politique du gouvernement aujourd'hui est de continuer à collaborer avec les CPI.
Avec la CPI,
j'ai suivi les positions du ministre de la Justice. Il est favorable à la poursuite de cette collaboration.
Okay.
Je ne vois pas Taganda se sentir à l'aise pour négocier avec le gouvernement.
Merci beaucoup.
Si je peux me résumer, je dis, continuons avec Nkunda, l'interlocuteur avec qui le gouvernement discute depuis, et je crois que si un compromis est trouvé, Bosco Taganda, qui contrôle une aile qui n'est pas très très représentative, qui n'est pas très très présente sur terrain, sera obligé de se plier à ce qui aura été dégagé entre le gouvernement et les syndicats de Laurent Nkunda.
Nous avons terminé par vous, Benoît Kambéré, juste en 30 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? À qui profite après tout cette petite situation communiste, bien sûr, au sein du CNDP?
En tout cas, pas au peuple congolais. Moi, je voudrais tout simplement ajouter à ce que Mike vient de dire. À suivre Bosco Taganda, il semble plus être conciliant avec le gouvernement de Kinshasa. Je pense que ce serait un petit problème en ce qui concerne Bosco Taganda, parce que les positions de Bosco Taganda, déjà, il commence à dire que lui, il est favorable au fait que le gouvernement qui a décidé de traquer, par exemple, les FDLR, lui, il se mettrait à côté du gouvernement pour traquer les FDLR. Il semble être plutôt du côté des thèses du gouvernement.
Ok, merci bien, Benoît Kambéré. Nous passons au deuxième thème de cette émission consacrée à la clôture hier jeudi à la CPI des audiences et confirmations des charges dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Le procureur de la CPI a au cours de ces audiences présenté des charges retenues contre Jean-Pierre Bemba. On accuse ces militaires d'avoir commis des viols massifs sur des femmes et des jeunes filles, de meurtres, puis tortures et pillages en République centrafricaine entre le 25 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Rappelons que pendant cette période, Ange Félix Patassé, alors président en Centrafrique, faisait face à une rébellion conduite par l'actuel président, le général François Bozizé, et en son temps, Patassé avait fait appel à Jean-Pierre Bemba, qui contrôlait la province de l'Équateur. C'est dans ces conditions que les troupes de Jean-Pierre Bemba se sont retrouvées en Centrafrique. Au cours de ces audiences, l'accusation a affirmé détenir des preuves suffisantes pour justifier un procès. Quant à la défense, elle a rejeté ces accusations et mis en cause l'ex-président centrafricain Ange Félix Patassé, estimant que c'était lui qui donnait des ordres aux troupes et non Jean-Pierre Bemba. Par conséquent, ils ont demandé et non lieu. Retour sur le dernier jour de ces audiences avec notre confrère Axel Gontio.
Au cours de l'audience d'hier, les avocats de Jean-Pierre Bemba ont exclu toute responsabilité de leur client dans les crimes commis selon l'accusation par les troupes du MLC en Centrafrique. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba, mais le président Patassé qui donnait les ordres relatifs aux opérations militaires sur le terrain et fixait les cibles, a affirmé Maître Aimé Kilolo au cours de cette audience. Ce sont les autorités centrafricaines, sur instruction directe de Ange Félix Patassé, qui ont fourni le matériel de combat, les véhicules, le carburant et les uniformes aux soldats du MLC, a-t-il ajouté. L'armement, les munitions ainsi que les moyens financiers ont été livrés par la Libye, a souligné l'avocat. Selon la défense qui a demandé un non-lieu, Jean-Pierre Bemba n'est même pas complice. Sa participation s'est exclusivement limitée à la mise à disposition de ses soldats pour soutenir un gouvernement démocratiquement élu dans le cadre d'un d'un accord régional africain, a dit pour sa part mettre en cause les risques. Du côté de l'accusation, on a une fois de plus affirmé que les preuves à charge de Bemba étaient suffisantes pour justifier un procès. Le procureur Fatou Bensouda a déclaré hier que les crimes ne sont pas arrivés par accident, ce ne sont pas des dommages collatéraux imputables à un conflit armé, les meurtres étaient intentionnels. Toujours selon le procureur Bensouda, Jean-Pierre Bemba, en tant que commandant des troupes du MLC, savait que des crimes étaient commis et n'a rien fait pour les arrêter alors qu'il aurait pu en éviter des centaines.
Linda Lukalu, vous êtes journaliste à la chaîne de radio-télévision Nyota émettant à Lubumbashi dans le Katanga. Est-ce que, en écoutant les avis des uns et des autres, vous pensez que les leaders du MLC peuvent aujourd'hui, jusqu'à ce niveau, échapper au procès et être libérés?
Moi, je pense que tout est en sa faveur. Jean-Pierre Bemba peut finalement échapper à ce procès. Quand je vois les règles de la Cour pénale qui disposent qu'un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable de crimes relevant de la compétence de la Cour commune par des forces placées sous un commandement et sans contrôle effectif ou sans autorité. Et l'article 28 du statut de Rome qui stipule que les chefs militaires ou cette personne en raison des circonstances aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre des crimes. Ce que doit d'ailleurs prouver le procureur de la CPI, de ce fait Pierrot, ainsi que le procureur de la CPI accuse le président du MMC, Jean-Pierre Bemba, d'avoir ordonné entre 2002 et 2003 des actes de violation des droits de l'homme, alors que les troupes du MLC sont entrées en Centrafrique à l'invitation de l'ancien président qui est Félix Patassé, parce que son régime était menacé par la rébellion de l'actuel président François Bozizé. Alors, moi j'estime que les éléments du MLC étaient placés sous les ordres du commandement de l'état-major général des forces armées centrafricaines, par extension le chef de l'état et même le chef d'état-major de l'armée centrafricaine. Eux doivent répondre des actes attribués aux hommes de Jean-Pierre Bemba, surtout qu'on apprend que ces militaires étaient vêtus, payés par le gouvernement Patassé.
Je rappelle que c'est dans 100 jours que les juges doivent se prononcer, bien sûr, pour savoir quel est le sort qui est réservé aux leaders du MLC. Mais je reviens à vous, Mike Mukebayi, directeur du journal Congo News. Nous avons vu la défense de Jean-Pierre Bemba mettre en cause Ange-Félix Patassé. Et on dirait qu'il est la pièce maîtresse, n'est-ce pas, de cette affaire. Est-ce que vous pensez que la CPI va finir par lancer un mandat d'arrêt à l'encontre de ces derniers?
Le débat aujourd'hui n'est pas de savoir si la CPI va lancer ou pas un mandat contre Ange-Félix Patassé. La question, c'est qu'aujourd'hui, la Centrafrique n'est plus disposée à collaborer avec la CPI. Elle ne livrera pas Ange-Félix Patassé, elle ne livrera pas Abdoulaye Miskine, elle ne livrera pas l'ancien chef de la garde rapprochée de Patassé, qui est aussi accusé dans cette affaire. C'est là que sur le plan pratique, il y a comme une sorte d'iniquité, de quelque chose de pas équitable, parce que en fait, les responsables directs, eux, échappent aujourd'hui à la CPI. Eux ne comparaîtront pas. Au fond, la question principale, je crois, que si la CPI, à mon point de vue, veut faire un procès équitable, un procès juste, la question principale, c'est de déterminer la responsabilité de Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas d'amener les dépositions des victimes et de mettre ça sur Jean-Pierre Bemba. Il faut déterminer si Jean-Pierre a eu une quelconque responsabilité dans les commandements des troupes en Centrafrique. Or, il est clair aujourd'hui, tous les éléments le démontrent, que Jean-Pierre Bemba n'a fait que prendre ses hommes et les mettre à la disposition de l'armée centrafricaine à l'époque. Ces troupes étaient sous le commandement de l'armée, de l'état-major de l'armée centrafricaine. En ce moment, on ne peut plus parler de sa responsabilité. En ce moment-là, les débats s'arrêtent et le procès n'a plus de raison d'être. Je crois, à mon point de vue, qu'au-delà, si Moreno ne cherche pas simplement une publicité, parce qu'en fait, en réalité, il n'y a que la RD Congo qui fait exister la CPI. Si ce n'était pas nous, la CPI, elle ne jugerait personne. Il n'y a que des Congolais à la CPI. Tous les autres dirigeants africains qui sont arrêtés le sont par des tribunaux pénaux internationaux. L'ancien président
Charles Patello n'est pas à la CPI. À la CPI, il n'y a que des Congolais. Et là, Moreno pense que c'est l'occasion de faire du marketing, de faire de la pub dans le monde pour qu'il montre que la CPI travaille. Mais en réalité, je me dis, ce procès n'a pas de raison d'être, parce que déjà, sur le plan pratique, chaque fois qu'un contingent militaire, qu'un État intervient en faveur de notre État, dans la règle générale, on met son contingent, on met les hommes qu'on envoie à la disposition de l'armée qu'on va soutenir, du régime qu'on va appuyer, qui est censé connaître des pays, qui est censé comprendre et orienter les hommes qu'on lui donne en appui. Je ne peux pas, moi, m'expliquer que Bemba ait envoyé ces hommes et qu'il les ait commandés à partir de probabilité. Ça, il faut que Moreno les démontre. Et je crois que le tribunal en tiendra compte et que, naturellement, il en tirera toutes les conséquences. Parce que cette responsabilité n'a pas été déterminée par Moreno. Il n'en parle pas. Je ne l'ai pas entendu insister, amener des éléments de preuve pour établir cette responsabilité.
Okay.
Plus le témoignage des victimes là-dessus, et des témoignages, pardon, je termine par là, des témoignages qui ont été repris dans le rapport de la FIDH, ce rapport qui est complètement biaisé. J'ai lu ce rapport, j'ai été en contact avec deux gens qui ont enquêté à Bangui pour Jean-Pierre Bemba, j'ai confronté les faits. Je prends un exemple, dans le rapport de la FIDH, il y a une
victime... Oui, il terminait par là, il me dit, Mike.
Oui.
Terminez par là dans 30 secondes.
Oui, je termine. Il y a quelqu'un qui déclare, qui dit qu'il avait vu Jean-Pierre atterrir avec son hélicoptère dans le centre de Bigoa. Alors, il y a des gens qui ont enquêté à Bangui. Moi, j'ai reçu des photos du centre Bigoa. Mais même un hélicoptère ne peut pas atterrir dans l'enceinte du centre Bigoa. Et là, la FDH a repris ces témoignages. Mais quelle aberration! Et puis, Moreno s'est fondé sur un tel témoignage. Et pour formuler l'accusation, c'est très grave.
Merci, Benoît Cambéry. Qu'est-ce que vous répondez un peu par rapport à ce que Mike vient de dire tout à l'heure?
Bah, écoutez, je crois que Mike n'est pas très loin de la vérité, tout ce que Mike dit, parce que on a vu que le procureur, apparemment, il joue son va-tout avec ce procès. Il a besoin de s'affirmer. Il n'avait que des menus crétins. Il a eu un gros poisson, mais malheureusement, on a l'impression qu'il s'y prend très, très, très mal. Il s'y est pris très mal en alignant des témoins qui, malheureusement, au dire des confrères qui sont là-bas, d'abord, il a lancé le mandat d'arrêt alors qu'il n'avait que 11 témoins. Et parmi ces 11 témoins, il y en a qui se contredisent. Alors, arrêtons. Après, il y a des témoins qui sont numérotés, n'est-ce pas, mais qu'on reconnaît très, très, très facilement, d'où la politisation qui est en train de monter en flèche dans cette affaire. Même les anciens compagnons de Jean-Pierre Bemba qui ont témoigné après qu'on l'ait arrêté. On a vu des contradictions incroyables entre, par exemple, le témoin charge numéro 31, très facile à deviner d'ailleurs, et les autres témoins numéro 6 ou numéro 48. Il suffit d'entendre ce qu'ils disent. Et à dire vrai, on a suivi, et beaucoup de Congolais suivent ce procès, Maître Kwebe Liris a été une grande vedette de ce procès, parce qu'il était en train il n'a fait que descendre en règle générale tous les témoignages qui ont été donnés et sur lesquels, finalement, Moreno s'est basé pour mener son enquête et lancer son mandat d'arrêt. Bon, cette audience de confirmation, d'ailleurs, on a vu que les membres de la cour, les collaborateurs du procureur Ocampo n'ont pas l'arrogance et l'assurance qu'ils avaient au début du procès, parce qu'on a descendu en masse tous les arguments. Ils commencent à être un peu plus conciliant. J'allais juste ajouter une chose. Tu as dit que c'est dans 60 jours que nous allions attendre le verdict. Non, disons plutôt que c'est dans les 60 jours. Ça peut être demain, tout comme ça peut être dans 12 jours, tout comme ça peut être dans 59 jours, mais on ne doit pas nécessairement attendre les 60 jours pour attendre le verdict. Mais ce qui est à dire aujourd'hui, c'est que les témoignages, malheureusement, sur lesquels le procureur s'est basé, sont en train d'être taillé en pièces et on a vu Maître Lyris, la vedette de ce procès, mettre en mal les preuves et les témoins du procureur Ocampo.
Ok, Linda Lukalu, je crois que vous avez suivi les deux confrères. Apparemment, Benoît, il est très optimiste dans cette affaire, mais je rappelle que une info de l'AFP datant de ce matin, ou hier soir, je crois, le président François Bozizé dans une interview aurait déclaré que l'amnistie, l'acte d'amnistie qui était signé en Centrafrique ne concerne pas la CPI. Si jamais l'ancien président Ange-Félix Patassé est invité à la CPI, il pourra répondre sans tenir compte de l'acte d'amnistie. Mais en tout cas, nous allons terminer par vous, Linda Lukalu. Est-ce que vous pensez que dans cette affaire, il y a un acharnement de la CPI contre Jean-Pierre Bemba?
Oui, tu penses à croire qu'il y a vraiment un acharnement parce que toutes les preuves sont contradictoires. Tout porte à croire que la CPI s'acharne sur Jean-Pierre Bemba. Et la question que moi je me pose, je me dis, jusqu'où va aller la CPI? Parce qu'il n'y a pas que Jean-Pierre Bemba qui a amené ses troupes dans un pays étranger. Et même, ils n'ont pas, à les entendre parler, ils n'ont pas assez de preuves de prouver que Jean-Pierre Bemba était finalement, on doit mettre les crimes des militaires de Jean-Pierre Bemba sur le dos de Jean-Pierre Bemba, parce qu'on laisse Félix Patassé tout libre et il a même, je ne sais pas, ce pouvoir-là de dire qu'il aura à dire ce qu'il a vécu à la CPI. En fait, moi, je pense que finalement, quand je vois Jean-Pierre Bemba, qui est ancien vice-président de la République démocratique du Congo durant la période de 2003-2006, si je me trompe, il était candidat à l'élection présidentielle en 2006. Il a perdu avec 41% contre le président Kabila, qui en avait 48%. Bon, ensuite, il était sénateur en janvier 2007. Je pense finalement que quelque part, ce procès commence à révéler un caractère politique.
Merci bien, Linda Lukalu. Nous passons directement au troisième et dernier thème de cette émission consacrée au désarmement forcé des FLR. Le lundi dernier, lors d'un conseil des ministres extraordinaire dirigé par le président de la République, le gouvernement congolais a annoncé qu'il va procéder au désarmement forcé des FDLR sous l'œil observateur des officiers de renseignement du Rwanda. Intervenant dans l'émission Dialogue entre Congolais le mardi dernier, le député national Ernest Caviro avait présenté des inquiétudes quant à la protection des populations civiles lors de ces opérations. Ernest Caviro était au micro de Jean-Claude Ntumba Kamanga.
La question va se poser, comment va-t-on protéger les Congolais et les Congolaises? Parce que nous avons suivi les opérations qui se passent entre la Lord Resistance Army et les trois armées, Sud-Soudan, UPDF et FARDC. Nous constatons qu'il y a une lacune grave. La population congolaise n'est pas protégée. Et donc, nous nous demandons qu'on puisse faire tout ce qu'on veut faire, mais en protégeant d'abord la communauté congolaise. Ce qui n'a jamais été le cas depuis qu'on a commencé ce genre d'opération. J'espère que cette fois-ci, ça sera fait.
Pour sa part, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a fait savoir que l'armée agira en sorte pour que les dégâts collatéraux puissent être limités. Lambert Mende était une fois encore au micro de Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Nous sommes dans l'obligation de défendre notre intégrité territoriale et ce faisant, il arrive qu'il y ait des dommages collatéraux. Nous faisons en sorte de limiter les dégâts. Et souvent, quand nous le faisons, on nous taxe d'être des gens qui n'ont pas de force, qui ne veulent pas se battre, etc. Parce que simplement, nous refusons d'engager le combat là où des populations civiles peuvent avoir à en souffrir. On l'a vu très souvent avec le CNDP, et notamment à Rumangabo, où les problèmes des femmes, des enfants ont amené le commandement à faire reculer les troupes, et nous savons que beaucoup de gens nous en ont voulu pour cela. Donc, les mêmes préoccupations continueront à nous guider, mais qu'on se fasse bien comprendre, il est hors de question que l'on nous dise que nous ne pouvons plus défendre notre pays contre l'agression de ces groupes armés, parce que sinon il va y avoir des dommages collatéraux.
Benoît, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce que cette fois-ci, comment on peut expliquer la décision du gouvernement? Qu'est-ce qui a motivé enfin le gouvernement à prendre cette décision pour désarmer effectivement les FDLR?
Je crois qu'on peut se poser la question, parce qu'il est étonnant que tout d'un coup, le gouvernement soit capable de s'attaquer aux FDLR, alors que les FDLR, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de tracasser la population congolaise. C'est bizarre que tout d'un coup comme ça, après, curieusement, que le général James Gafarebe, ancien commandant en chef de l'armée congolaise et actuel commandant en chef de l'armée rwandaise, soit passé par ici. Et subitement, un lundi, le gouvernement se réunit, au lieu de parler du problème de Nairobi, tout d'un coup, ils disent non, ils vont s'attaquer au FDLR pour les désarmer. Bah, écoutez, soyons sérieux, l'accord de Nairobi signé entre le gouvernement et le gouvernement rwandais avait mis un processus pour qu'on arrive à désarmer d'abord par la sensibilisation et puis à y aller. Non, c'est aujourd'hui qu'on va se réveiller et commencer à les désarmer sans penser à la population. C'est quand même assez curieux. Et aujourd'hui, on entend des ministres parler avec arrogance, avec condescendance, comme si aujourd'hui, il y a une force qui va venir du ciel pour les aider à faire un travail qu'ils n'ont pas fait depuis 10 ans. Mais soyons sérieux, la population congolaise a droit à des égards. Ce n'est pas du bétail qu'on peut sacrifier comme ça et parler comme ça tout bonnement des effets collatéraux et tout et tout. Non, écoutez, c'est congolais, ce sont vos électeurs, c'est congolais, on doit à la vie. Écoutez, vous êtes là au gouvernement peut-être, vous n'êtes pas des surhommes, il faut penser à ce que cette pauvre population qui n'a rien demandé de vos ambitions politiques est en train de souffrir et penser qu'on peut comme ça sacrifier des populations, même minimiser qu'on peut les tuer, ça fait partie des effets collatéraux. Ah non, la vie d'un Congolais, elle est précieuse, il faut en tenir compte, même si on est dans un gouvernement bien au chaud avec des bureaux climatisés, sans connaître les affres de la guerre sur le terrain.
Merci bien, Benoît Kambere. Maïto Moukébaï, d'après vous, quel sera le rôle exact des officiers rwandais? Parce que c'est une nouvelle donne, la présence des officiers rwandais comme observateurs. Quel sera le rôle exact de ces officiers rwandais dans ces opérations?
Ben écoute, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je n'ai pas d'informations précises, mais je crois comprendre qu'ils sont là pour vérifier et voir qu'effectivement, les offensives sont lancées contre les FDLR. Il y a une question fondamentale qui se pose, Piro. J'apprécie, j'ai trouvé que c'était assez positif, c'est une réponse aux revendications rwandaises que de combattre les FDLR, de s'engager sur le terrain pour anéantir les FDLR. Mais la question fondamentale que je me pose, mais si nous n'y arrivons pas, il faut se poser cette question. Si au bout de 6 mois, au bout d'une année, nous ne sommes pas arrivés, parce qu'il faut être objectif, se regarder en face, comprendre nos faiblesses aujourd'hui. Nous sommes en train de rebâtir une armée qui peine aujourd'hui à se comporter, si je dois dire ainsi, comme se comporte une armée, normalement, sur le front militaire. Alors, si avec toutes ces faiblesses, dans 6 mois, dans une année, on n'arrive pas à anéantir les FDLR, que ferons-nous? Je crois qu'au départ, il nous faut réfléchir et trouver une solution beaucoup plus réaliste. Il faut réfléchir, il faut partager cette réflexion avec le monde, demander si possible si on peut nous aider dans une voie ou dans une autre. Parce que je ne crois pas que dans 6 mois, nous aurons anéanti les FDLR, je ne le pense pas. Et qu'en ce moment-là, le Rwanda nous dira, ah tiens, ben voilà, il n'y arrive pas, pourtant il avait pris l'engagement. Comme toujours, nous nous faisons prendre à nos propres pièges. Comme l'accord de Nairobi, l'acte d'engagement de Nairobi, nous avons accepté à l'époque de combattre les FDLR et nous ne l'avons jamais fait. Et aujourd'hui, nous nous engageons, nous disons nous allons le faire, mais sommes-nous sûrs de faire aboutir cette démarche? Si nous ne sommes pas sûrs au départ, il faut réfléchir avec le monde pour trouver une autre solution qui réponde aux revendications rwandaises.
Merci bien, Mike Moukébaï. Nous allons terminer par vous, Linda Lukalu. Les FDLR eux-mêmes ne l'attendent pas de cette oreille, ils n'apprécient pas cette option militaire, ils préfèrent encore que ça soit le dialogue. Mais est-ce que vous pensez qu'avec cette option, on finira par régler définitivement cette question des FDLR au Congo?
Écoutez, Pierrot, si vous appréciez ou si vous n'appréciez pas, ça fait quand même des années qu'ils sont sur notre territoire en train de déranger les populations. Je pense qu'on n'a pas à connaître la vie du FDLR, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Mais ce que nous devons faire, ce que l'État congolais doit faire, c'est finalement désarmer les FDLR. Et comme vient de dire mon frère tout à l'heure, c'est que le gouvernement congolais doit bien se préparer et savoir ce qu'il fait. Parce que quand je revois encore les propos du ministre de la Communication, qui a dit qu'ils feront des efforts pour juste atténuer les dommages collatéraux. Atténuer ? Pourquoi les verbes atténuer ? Pourquoi les verbes atténuer ? Il y a des populations qui vont mourir là-bas, des femmes qui seront violées. Là, le ministre, lui, pense rien qu'à atténuer. Je pense qu'ils devront tout faire pour protéger la population, parce que c'est tout ce que l'État congolais a de précieux, c'est sa population. Sans la population, l'État congolais n'existera pas.
Merci, c'est par vous, Linda Lukalu, que nous mettons fin à cette émission. Merci à nos trois confrères Mike Mukebayi, directeur du journal Congo News, Benoît Kambéré, rédacteur en chef du journal Écho des Grands Lacs, et Linda Lukalu, journaliste de la chaîne de radio et télévision Nyota, et mettons à Lubumbashi dans le Katanga. Merci pour cette deux semaines d'intervention dans cette tribune de la presse. Merci aussi à vous, fidèles auditeurs. Cette émission a été mise en onde par Yves Matundu, préparée par toute l'équipe et Dialogue entre Congolais, Jean-Claude Ntumba Kambanga, Kéline Kouté, Uli Akonda et Aigu Maté. Nous faisons aussi un coucou à Claude Kianza, Piro et Lémé Jiboula. Merci et à la prochaine.